chaque semaine, un des membres de la Ligue des droits de l'homme, section de Montpellier, eh bien, est à notre micro pour eh bien, parler, aborder une thématique, un dossier. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de la dette. Et c'est Jean-Charles Tadéhi qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors la dette de quoi d'abord? La dette de qui? D'où sort-elle, etc. La Ligue au niveau national appelle à un audit citoyen de cette dette.
Oui, alors effectivement, tu as bien pu référencer sur notre site cet appel. On a aussi publié une analyse nationale de cette situation. Moi, ce que j'observe, c'est plusieurs choses. D'autre part, ces dettes, dans leur volume tel qu'elles sont exposées, ont toujours existé. Le problème actuel qui est exposé, c'est qu'elles enflent démesurément et à la vitesse grand V par le taux d'usure. Et nationalement, en France, il y a des lois qui régissent le taux d'usure, qu'on ne peut pas dépasser. Et internationalement, ces lois n'existent pas. Autrement dit, vous avez une dette qui ne peut être maîtrisée. Deux minutes après, vous avez le taux qui monte et la personne ne peut même pas faire, disons, résoudre avec les engagements précédents. Donc ça, c'est une anomalie qu'il faut absolument dénoncer.
Alors justement, il y a pas mal de politiques qui s'emparent de cette brûlante thématique en rappelant justement un petit peu l'historique, la perte de la convertibilité des monnaies, la perte de souveraineté des États pour eux-mêmes pouvoir emprunter à taux zéro quand il y a des soucis, la dépossession en quelque sorte finalement des États de leur propre régulation financière et bancaire. Où on a l'impression que c'est pas la BCE qui va remplacer, en tout cas dans l'intention, les banques nationales des États tels que ça existait jusqu'à il y a quelques décennies.
Oui, et puis de toute façon, bon, au plus, qu'est-ce qu'elle fera la BCE? Elle fera ce que fait la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire faire marcher la planche à billets. Donc ça ne résoudra pas, on apportera quelque chose, c'est le tonneau des Danaïdes, que vident les autres d'un autre côté. Il faut savoir tout simplement que, par exemple, la dette grecque est contenue en équivalent euro exactement dans les fonds suisses grecs.
Oui, voilà, ça a été plusieurs fois cité dans la presse, effectivement, 140 milliards d'argent des plus nantis, des Grecs qui dorment en Suisse et la dette qui fait s'écrouler le pays.
Oui, alors, la volonté des peuples qui, de toute façon, on ne peut pas non plus leur raconter n'importe quoi, elle commence à émerger, on le voit avec le mouvement des indignés un peu partout, et je voudrais souligner une chose qui est passé peut-être un peu inaperçu. Lorsqu'il y avait la menace du référendum grec, vous avez eu au moment même du G20 dans le sud de la France un accord qui a été public sur la possibilité d'une taxation financière internationale des deux côtés de l'Atlantique. Au moment même où ce référendum grec est devenu caduc par la volonté du gouvernement grec, eh bien, cet accord international, comme par hasard, n'a plus été exposé. Il n'y avait plus qu'un accord européen. Alors, je te cite tout simplement deux lignes de l'analyse que nous faisons et qui montrent bien que tout dépend en fait de la volonté des peuples. Les marchés ne sont forts que des concessions, soumissions et autres offrandes que leur ont concédé les décideurs politiques, omnibulés qu'ils étaient par leur efficacité supposée. La dévolution du pouvoir à des hommes politiques labellisés experts européens alors qu'ils sont acquis à la vulgate néolibérale signe donc une certaine impuissance des milieux dirigeants classiques et un bégaiement du côté des perspectives alternatives. Les générations futures se demanderont sans doute avec effarement comment il a été possible qu'une crise financière sans précédent et pu bénéficier à ceux qui en étaient la cause et les agents.
Donc, dans cet ordre d'idées, on pourrait voir, finalement, on pourrait se dire, endetter les États, affamer les populations et casser les murs de l'économie des nations, c'est presque un crime contre l'humanité.
Oui, on pourrait dire ça. Il faut savoir que ça a existé de tout temps. Vous avez quelque chose qui maintenant est un peu tabou, presque vulgaire, la lutte des classes. La lutte des classes, on n'en parle plus. Mais il faut bien savoir que Au Moyen Âge, on avait une expression qui résumait la situation. Il est important que les gueux se battent entre eux, ça leur évite de penser à qui leur mange la laine sur le dos. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On voit en parallèle une politique qui spolie un certain nombre de personnes et une politique sécuritaire. Il faut savoir que quand on plonge volontairement, parce que certains ne veulent pas revenir sur leurs acquis, 30% de la population dans la précarité, il faut à côté une politique sécuritaire pour tenir le lien social. Sans ça, c'est l'explosion. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on monte les gens les uns contre les autres. Le salarié français contre l'étranger, le salarié français contre celui qu'on discrimine pour une raison ou pour une autre, de façon qu'il pense que la cause est son voisin et non plus le puissant qui lui mange la laine sur le dos.
Alors, cet audit citoyen, est-ce qu'il a des chances de voir le jour ?
Alors, on n'est pas les seuls à l'avoir lancé. C'est un groupement d'associations. On appelle, justement, il y a une pétition sur notre site. Vous tapez Ligue des droits de l'homme, tout simplement, et vous avez cette pétition possible à signer.
42 733 signatures pour l'instant.
Voilà. Alors, il faut savoir que, par exemple, là où on a fait fléchir le gouvernement, c'était sur Edwige, on avait réussi à 200 000 signatures. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Mais on appelle, bien sûr, tous les auditeurs à faire ce geste-là.
Bien voilà, on peut que souhaiter que ces choses s'arrangent un petit peu. Il y a des analystes de l'ONU qui pointent que dans ce type de dérive, ça pourrait ouvrir la porte à grandir le pouvoir des mafias, notamment en jouant ce rôle social. Ça s'est vu dans d'autres pays, à d'autres époques, ou encore aujourd'hui en Russie peut-être, ou ailleurs, ou des intérismes, quels qu'ils soient, religieux ou étatiques, d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a de l'espoir ?
Alors, il y a de l'espoir.
Il y a toujours de l'espoir, mais bon.
Il y a de l'espoir. C'est actuellement, les mouvements, il y a le risque majeur, c'est qu'à un moment donné, la situation soit telle sur le plan social que des mouvements politiques disent la seule solution, en fait, c'est de provoquer des tensions telles qu'une, comme ça a été le cas pendant des siècles, qu'une guerre détruise un certain nombre de choses pour qu'ensuite la reconstruction relance l'économie.
C'est
le risque majeur dans toutes les crises économiques. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Jusqu'à présent, tous les mouvements de protestation ont bien été, malgré qu'ils aient été combattus par la police d'une façon radicale, sont bien restés sur le plan pacifique. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut absolument favoriser. Je vous invite, les indignés se réunissent régulièrement sur la Comédie. Actuellement, ils n'ont pas le succès qu'on espère parce que tout simplement la crise économique française n'est pas encore suffisamment prégnante. Mais c'est quelque chose qui, automatiquement, lorsque les gens seront dépossédés d'un certain nombre de leurs possibilités tout simplement d'autonomie financière, prendra de l'ampleur.
J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller faire un tour sur www.audit-citoyen.org ou à consulter sur le site ldh-france.org l'analyse elle-même. La semaine prochaine, c'est Lionel qui viendra nous parler du dépistage de la délinquance chez les tout-petits. Ce sera pour mardi prochain, 6 décembre. Jean-Charles, merci. Et puis, au mois prochain.
Voilà.
Au revoir.
Bon Noël en attendant.